Never, ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything.
Let's make a revolution of desire.
But this time, we will do it by ourselves.
Nous ne sommes pas sans passé. Nous avons un passé.
If not me, who?
C'est représenté.
If not now,
que el aborto sea legal, seguro y gratuito, que sea ley.
When?
Représente
Festival féministe en Angoulême du 22 au 26 août 2023.
If not now,
sur Zay Zay.
When?
L'émission que vous allez entendre a été enregistrée en public le jeudi 24 août 2023, troisième soirée du festival Représente, qui s'est déroulée fin août à Angoulême. Le début de l'enregistrement n'a pas fonctionné et vous allez plonger directement dans le cœur du sujet alors que les deux autrices avaient déjà commencé à parler depuis 10 minutes environ. Manon Picot, libraire de L'Île aux Images, la librairie indépendante d'Angoulême, co-organisatrice de l'événement, animait la rencontre. Bonjour Manon.
Bonjour Léa et bonjour à tous. Tous les soirs de la semaine, nous avons proposé une programmation pour discuter des notions de talent et de mérite. Ce soir-là en particulier, nous avions le plaisir de recevoir Sama Karaki et Annabelle Alouche pour échanger autour de leur livre « Le talent est une fiction » aux éditions Lattès et « Le mérite » aux éditions Anamosa. Leur domaine d'expertise sont les neurosciences pour Sama, la sociologie pour Annabelle. On pourrait penser qu'ils n'ont rien en commun, et pourtant, ils leur ont permis de produire des recherches complémentaires sur les thèmes de cette troisième édition du festival. L'enregistrement que vous allez écouter commence par Sama Karaki, nous expliquant pourquoi elle s'est intéressée aux questions de talent et de mérite. Les deux autrices dialoguent ensuite pour nous exposer les enjeux de ces notions dans notre culture et nos représentations.
Et donc, parce qu'en fait, quand on regarde sa propre trajectoire, on est plus sincère avec soi-même. On sait que ça a été les autres et que ça a été la chance. Et ça a été le fait que j'ai été bègue dans mon adolescence et que la seule façon d'y arriver, c'était l'école. Ils se sont dit, parce que sinon, je ne voyais pas une autre façon que appartenir à l'école, qui est d'ailleurs que des filles. Et ça peut aussi être interprété que quand il n'y a pas les garçons, il y a aussi autre chose qui se passe dans la compétition à la réussite sociale. Donc j'étais portée par ces questions et aussi portée par les mauvaises interprétations et par l'instrumentalisation de cette question du talent pour naturaliser, rendre légitime sous apparence de quelque chose d'objectif et donc de séduisant. Qui réussit et qui le fait pas, sachant que je sais que si je suis là face à vous, en tout cas ce qui a fait que j'ai écrit un livre, donc ce qui a fait que j'ai été dans les médias pour que la maison d'édition me remarque, c'est que je suis arabe mais qui ne fait pas arabe. Donc je sais aussi que il y a des privilèges qui sont invisibles, qui peuvent expliquer mon parcours d'une manière. Et c'est ce que tu dis, Vas, en faisant une sociologie spontanée, je peux aussi regarder qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui arrivent. Donc en arrivant là, par exemple, de la gare, je vois toutes ces belles personnes qui sont les comédiens et comédiennes qui sont célébrés dans un festival en ce moment. Et c'est pas par hasard non plus, et c'est pas par le talent, mais par quoi ? Et donc, en fait, c'est des questions qui étaient un peu des questions isolées et qui, quand on fait la démarche, ben, on rencontre beaucoup d'éléments. Et j'ai suivi la démarche scientifique que j'ai apprise pour les retracer en un livre.
Alors, sur la question de pourquoi on critique si peu le mérite et le talent, je pense que c'est une question qui est absolument essentielle. Je pense que nos deux livres ont en commun la nécessité de déconstruire cette notion qui circule en fait dans l'espace public absolument tout le temps et partout. Je donne souvent l'exemple suivant, c'est que moi donc je suis universitaire, donc je note, je transmets du savoir, mais je note aussi mes élèves, mais je suis aussi maman et je suis tout simplement citoyenne et femme bien sûr. Et donc il m'arrive dans une journée donc à la fois de me réveiller, de mettre mon fils à l'école et ensuite de moi-même transmettre et noter mes élèves, donc de les inciter à un effort scolaire, en l'occurrence, donc mes étudiants. Et ensuite, le soir, je reviens à la maison, enfin, d'être aussi moi-même évaluée, parce que quand on est universitaire, on produit des articles et des ouvrages qui sont évalués par nos pairs, PIRS, et c'est ça aussi la légitimité de scientifique, c'est construit aussi par les pairs, c'est-à-dire d'être jugé par d'autres scientifiques. Et le soir, finalement, j'allume ma télévision pour essayer de me détendre un peu, et qu'est-ce que je vois ? Ben, je tombe sur des émissions de télé-réalité. Pas que, mais on tombe toujours sur une émission de télé-réalité en général quand on appuie sur la télécommande par hasard. Et un jour, je me suis aperçue que finalement, alors que je suis spécialiste de la question des concours et du mérite, ben, j'avais des gens qui, dans des émissions de type The Voice, donc des émissions de télécrochet ou des émissions de type pâtisserie, hein, Top Chef, Master Chef, je vous donne quelques noms comme ça, je pense que vous avez des exemples en tête, seraient réclamés du concours, étaient jugés eux-mêmes, évalués avec des notes, des tuteurs, des mentors, une velléité de produire un effort pour être bien évalué, etc., etc., etc. Ce qui m'a fait dire que finalement, la question du mérite ou de la méritocratie, c'était pas le propre de ma spécialité, c'est-à-dire la sociologie de l'école, de l'institution scolaire, mais c'était simplement une idéologie, on pourrait revenir sur ce terme peut-être plus tard, qui circulait dans l'espace public en général, sans qu'on y réfléchisse, comme si c'était naturel d'en parler. Et pour vous donner d'autres exemples, au moment où j'ai sorti Mérite, c'était encore le confinement et Emmanuel Macron, président de la République, passait son temps à faire des discours pour justifier le confinement à venir. Et un jour, je me rappelle, c'est le 12 juillet 2021, ce qu'il a dit, c'est que ce qui continuera à sauver la France, c'est un, le travail, deux, le mérite. Donc là, en fait, Macron, quand il dit ça, c'est encore une fois à la fois une naturalisation de la notion du mérite et aussi il s'inscrit dans une histoire très longue de discours présidentiel méritocratique. Et peut-être que le plus connu, peut-être que vous l'avez en tête, c'est « Travailler plus pour gagner plus ». D'un président de la République qui s'appelle toujours Nicolas Sarkozy, bien sûr, et qui incarne cette idée de mérite comme si l'effort suffisait à lui-même pour être rétribué. Et ce qui est intéressant dans cette idée de mérite, et pourquoi on a encore besoin de parler de mérite ou de talent, c'est qu'il y a toujours cette ambivalence en nous, dans la société, dans l'espace public, dans les médias, mais aussi en nous, entre ce besoin d'être reconnu et reconnu dans sa dignité, il y a quelque chose de très fort dans le mérite ou le talent, et en même temps, la nécessité finalement d'être reconnu dans sa dignité individuelle, malgré le fait que on vive en collectivité, qu'on ait envie de vivre dans cette collectivité. Et ce qui m'a incité à écrire ce livre Mérite, c'est vraiment essayer de réfléchir à cette tension qui peut tous nous traverser, moi la première, entre cette nécessité d'être reconnu dans son effort, dans son effort personnel, mais aussi dans sa morale, ou éventuellement pour certaines personnes qui croient dans son génie ou dans son inné, parce que c'est aussi une partie potentielle du mérite, du moins en sociologie, et la nécessité aussi de s'en détacher, voire l'incompréhension ou la distance totale à l'égard de certains discours présidentiels comme travailler plus pour gagner plus. Voilà, donc c'est à la fois une nécessité de déconstruire et aussi déconstruire pour repolitiser. Parce que le mérite ou le talent sont des discours qui circulent, on a l'impression, encore une fois, que c'est naturel, que ça s'impose à nous-mêmes. Sauf que c'est le produit d'une société et d'une histoire institutionnelle, d'un certain fonctionnement des institutions, scolaires mais pas que, qui nous ont incités à croire à ça. D'où la nécessité de le déconstruire pour justement se le réapproprier en tant que citoyen déjà, en tant que scientifique, en tant que militant également, parce que c'est une idéologie qui produit une forme d'universalisme qui, du coup, peut aussi produire des discriminations et des inégalités. J'y reviendrai peut-être, mais j'ai été un petit peu longue, pardon.
Je vais juste ajouter que quand tu nous poses la question de pourquoi on s'attaque, il y a une part de la réponse qui existe dans pourquoi on ne veut pas s'attaquer. C'est-à-dire pourquoi peut-être parmi vous, là, il y a des gens qui disent « oui, mais quand même ». Si je veux me faire opérer, je veux me faire opérer par le ou la meilleure chirurgienne, n'est-ce pas ? Donc en fait, peut-être en analysant d'où est venu notre attachement à l'idée, qu'on peut la corriger. Donc on peut l'attaquer dans ces zones les plus affectives. Et en fait, la première attache que vous pouvez avoir, peut-être on peut en parler des autres plus tard, c'est que c'est un idéal qui nous permet de nous émanciper de soi par soi, de faire cette émancipation qui n'est pas basée sur des privilèges de naissance. Donc en fait, la méritocratie, c'est un joli, une jolie alternative à l'aristocratie. C'est-à-dire que non, en fait, ce n'est plus tu es la fille ou le fils d'eux, mais c'est par ton travail, c'est une équation. Donc il y a le travail, il y a le talent, disons, il y a les prédispositions de base, et puis il y a aussi la vertu. Alors, la vertu, elle peut être comprise de différentes façons, mais dont vous ajoutez dedans... tout le courant de développement personnel, la persévérance, la bonne façon de penser sur soi. Est-ce que, voilà, donc en fait, tout ça, pourquoi pas, finalement, quand on y pense. Donc il y a cette équation qui donne une illusion de justice. Donc en fait, c'est ça aussi pourquoi on s'y attache. Bien sûr, après, on peut rajouter quelques raisons, comme s'attacher à l'idée du mystère, surtout ça, ça concerne surtout la composante talent dedans, c'est-à-dire ce truc mystique, ce petit quelque chose, comme Nietzsche l'analyse, pour ajouter une forme de poudre mystérieuse sur nos vies fades. Ok, mais bon, après, c'est aussi parce qu'il y a une forme de justice qui peut nous sembler idéal. Et donc on s'attache à cette notion, mais où est le problème avec cette notion? C'est que au final, c'est-à-dire à l'arrivée, on considère que les parcours des gens, ce que vous êtes aujourd'hui, ce que je suis, ce que tu es, en fait c'est la résultante directe de ces composantes. Donc en fait c'est un peu l'individualisation des trajectoires et de renvoyer au corps et à la psychologie, c'est-à-dire c'est biologiser et psychologiser les parcours et trajectoires humaines, c'est là où on intervient. Je pense pour Annabelle, pour dire que le corps est situé dans son contexte social, et pour moi, pour dire que ce corps biologique, bah déjà, il n'est pas les gènes, nos gènes ne codent pas pour des traits, ils codent pour des protéines. Il n'y a pas une recette qui vient s'actualiser contre vent et marée. Si vous êtes, par exemple, dans vos gènes, une super recette d'un super plat, et vous n'avez pas les ingrédients, bonne chance. Et si vous ne savez pas le cuisiner, bonne chance non plus aussi. Donc en fait, ces gènes ne déterminent absolument rien. On est en fait câblé biologiquement pour être façonné par tous les capitaux que les philosophes et sociologues ont analysés, sauf que les biologistes ont étudié le corps dans un laboratoire. Et donc, c'est pas qu'ils ont mal travaillé, c'est qu'ils ont travaillé un bout, comme ça, qui est détaché, comme si le cerveau et le corps étaient une citadelle détachée de son contexte. Donc, en fait, la première erreur, c'est de corriger ce qu'on peut croire sur qu'il y ait quelque chose qui explique ce que nous sommes dans notre psychologie ou notre biologie exclusivement. Donc de les détacher de tout le reste. Donc premier homme de paille que je souhaite déjà dire non, on n'est pas pareil, on n'est pas égaux à la naissance. Donc le réductionnisme sociologique, je pense qu'on s'en... On s'en méfie tous et toutes. Je ne sais pas, Annabelle, ce que tu en penses, mais personne, il n'y a pas, il y a personne aujourd'hui de biologie qui dit tout est acquis ou tout est inné. La question n'est plus là. La question, c'est d'évaluer l'étendue de l'influence et surtout de dire qu'on a pensé pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous posez la question à un biologiste ou une biologiste, surtout à un biologiste, il va vous dire l'intelligence, c'est 70% génétique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Hein. Si vous regardez Le Point ou l'Express en janvier, vous allez voir plein de chiffres comme ça. La réussite scolaire, c'est 65% génétique. Mais ça veut dire quoi, en fait? Parce que c'est impossible d'évaluer la part génétique ou ce qu'on appelle l'héritabilité d'un trait si on n'a pas contrôlé pour les facteurs environnementaux. C'est genre la base des protocoles scientifiques dont on est très fiers en tant que biologique, que nous, on fait de la science sérieuse parce qu'on suit le protocole scientifique. Mais en fait, on peut faire ça sur les élevages, on peut faire ça sur les plantes, mais on ne peut pas faire ça sur les êtres humains parce qu'on n'a pas une idée de ce que sont les variables qu'on doit contrôler. Et ça, c'est qui sont les experts des variables qu'on doit contrôler ? C'est les sociologues à qui on n'adresse pas la parole. Et donc, voilà. Donc, en fait, on est nous-mêmes biaisés par le manque de perspective, je dirais sociale, pas sociologique, sur l'être, sur le corps. Donc, bien sûr, on peut critiquer la méritocratie en disant qu'elle ne tient pas ses promesses. Mais en fait, à la base, le mérite, ça veut dire la composante du talent, du travail et de la psychologie, elle est elle-même une notion qui est fallacieuse, parce que ce corps sur lequel reposent nos compétences est lui-même traversé ou pas par ce qui permet d'actualiser ses prédispositions. Et donc, j'ai lu un livre, un chapitre dans Le Train, celui que vous avez aussi lu, ceux qui ont fait l'arpentage, sur la reconnaissance des femmes dans l'art, dans l'histoire de l'art. Et je ne voyais pas figurer un argument. C'est-à-dire, je voyais qu'on disait... Désolée, je parle beaucoup. Peut-être que je peux donner la parole. Juste, je finis là-dessus. C'est que... on va dire que les femmes ne sont pas reconnues parce qu'il y a une volonté des fois d'invisibiliser le travail des femmes, parce qu'il y a bien sûr historiquement, ce qui n'est plus normalement dans le présent, une barrière qui permet leur non-accès à la formation. On peut parler de ces raisons, mais il y a aussi le fait que si les femmes, si ce corps n'est pas, en fait, ne croise pas la connaissance, ne croise pas l'expertise, ben en fait, elle ne va pas être méritante. C'est-à-dire que si je veux suivre la méritocratie, elle ne sera pas la femme capable de produire de l'art si elle n'a pas été exposée à. Et pareil pour la philosophie, si la femme n'a pas été invitée et bienvenue dans les sacs de réflexion philosophique, c'est pas qu'elle philosophe toute seule et qu'on lui donne pas la parole, c'est pas qu'elle philosophe toute seule mais que son discours est invisible, c'est qu'elle ne philosophe plus. Et donc, en fait, c'est ça aussi ce que je rajoute à cette question, c'est que notre biologie, c'est-à-dire ce corps, pour qu'il rentre dans la compétition pour savoir s'il mérite ou pas, s'il est reconnu ou pas, ben en fait, il porte toute cette charge de discrimination qui fait de lui quelqu'un de moins méritant. Donc, je ne sais pas si l'idée est claire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la méritocratie qui va pas, c'est le mérite même qui se base sur un calcul absurde et non objectif.
Sur la question du mérite et des critiques de la méritocratie, c'est quelque chose de qu'on dit souvent à Bourdieu, à Passeron. Vous avez peut-être entendu parler du sociologue Pierre Bourdieu, qui est sans doute le sociologue français le plus célèbre et le plus cité aussi à l'étranger, qui est le premier à avoir émis une critique du mérite et de la méritocratie comme principe qui organise le système scolaire. Ce que dit Bourdieu, c'est que le bon élève, celui qui réussit, celui qui a une bonne note, en fait, ce qui est rétribué, c'est son capital social, culturel et son capital économique, c'est la manière dont sa famille a investi en lui, par exemple, en l'amenant au tennis, au violon, à la piscine, mais aussi en l'accompagnant ses devoirs, etc. etc. Et donc, ce qu'il dit, c'est que finalement, la croyance que chacun peut s'en sortir grâce à l'école et avoir une mobilité sociale ascendante est fausse. Donc ça, c'est une critique des années 60. Mais ce qui est intéressant avec Bourdieu et Passeron, et là, je te rejoins là-dessus, c'est que, en fait, Bourdieu et Passeron, ils critiquent la méritocratie et surtout, ils critiquent l'école méritocratique en disant bah, le principe n'est pas mis en œuvre véritablement, mais ils ne prennent pas le temps de déconstruire le principe. C'est-à-dire qu'ils regrettent le fait que l'école française ne soit pas méritocratique, mais ils ne regrettent pas le fait que le mérite existe, en fait. Parce qu'eux-mêmes ont des trajectoires, et Bourdieu éminemment, de mobilité sociale ascendante par l'école. Ils sont finalement issus plutôt de petites classes moyennes qui ont eu des ascensions sociales très fortes grâce à l'école, dans un contexte particulier qui est celui des années 60. Et pourquoi je parle de ça ? C'est que le mérite, c'est un produit des institutions, mais aussi des institutions politiques. Pourquoi on y croit ? Parce qu'on a été entraîné à y croire sous plein de formes, parce que effectivement, dans une démocratie, c'est plus acceptable d'avoir une idéologie comme le mérite que une idéologie comme l'aristocratie, c'est-à-dire qu'il faut valoriser la naissance, être bien né ou être né beau, etc. Mais qu'il y a potentiellement d'autres façons d'accéder à des biens ou à des positions sociales que le mérite. Et ça, potentiellement, ce qui est intéressant avec la critique de Bourdieu, c'est qu'il ne va pas forcément au bout de ça. C'est-à-dire qu'il ne propose pas d'autre chose qui pourrait aller au-delà du mérite. Et je pense que c'était une de tes questions suivantes, Manon. Donc, je m'en excuse. Mais souvent, on me dit, bah oui, mais vous critiquez le mérite, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on a après ? Alors, alors évidemment, le mérite s'oppose à l'aristocratie et la naissance, bien sûr. Moi, je parle souvent en conférence ou en cours, et mes étudiants en général ont des réactions épidermiques quand je leur dis ça. Pourquoi ne pas considérer la chance ? Le tirage au sort. Seriez-vous prêt potentiellement à rentrer à l'université par tirage au sort ? Seriez-vous prêt à ça ? Parce que sociologiquement, c'est-à-dire statistiquement, dans les études statistiques en sociologie, voire en psychologie sociale, ce qu'on dit, c'est que le plus juste socialement, c'est-à-dire ce qui permet de rentrer à Harvard et d'avoir une représentativité totale de la société américaine à Harvard, c'est pas le mérite sous toutes ses formes, même sous tous ses patchs, donc la discrimination positive, etc. C'est le tirage au sort. C'est-à-dire que vous prenez un pool de candidats qui veulent rentrer à Harvard et vous demandez à une machine de tirer au sort. Et c'est ça le plus juste qui permet d'accéder à une représentativité sociale plus forte. Évidemment, en général, quand je dis ça, les gens se bondissent de leur fauteuil. Pourquoi ? Je ne vous vois pas trop bondir ce soir, mais je suis très contente. Pourquoi ? Parce que, en fait, on a été socialisés à l'idée que la justice, c'est la reconnaissance de notre effort. C'est ce que je disais sur la dignité. Et c'est important, effectivement, qu'on vit dans des sociétés qui sont fondées sur la reconnaissance de l'individu et qu'on n'ait pas l'occasion de faire valoir notre individualité, notre effort personnel, c'est quelque chose qui nous paraît insupportable, en fait. Et c'est ça le problème du mérite, et c'est aussi pour ça qu'on reste scotché au mérite d'une certaine façon. C'est aussi parce qu'on a été entraîné à se voir reconnaître en tant qu'individu. Alors que, par exemple, dans les études que j'ai faites, certes, j'ai eu des concours, j'en ai beaucoup passé, j'en ai réussi quelques-uns, j'en ai aussi raté. Mais je les ai réussis parce que justement, j'avais mes parents derrière moi, j'avais des amis, j'avais des profs. Donc c'est toujours quelque chose de collectif, en fait. Et on en fait finalement tous les discours sur les transfuges de classe. J'utilise souvent la métaphore de Rocky. Vous savez, Rocky, ce boxeur très fort, immigré italo-américain, qui n'a rien, qui a tellement rien économiquement, qui s'entraîne avec de la barbaque, hein, avec des carcasses de porc, et qui court tout seul dans la rue de Philadelphie, qui finit champion du monde des poids lourds de boxe. Et même Rocky, dans le film, même si toute l'histoire de Rocky est fondée sur cette idée méritocratique, cet idéal méritocratique, il a toujours du collectif derrière. Et c'est ça qui est important, je pense, de rappeler. Voilà, j'ai vu des questions qui se posaient sur la question du tirage au sort.
Bonjour. Enfin, bonsoir. En fait, je trouve l'idée du tirage au sort assez intéressante, mais ça me ramène au fait que, comme on est dans une société qui repose énormément sur la domination, le tirage au sort nous paraît complètement injuste. Parce que justement, à côté de ça, on a des gens qui vont être extrêmement privilégiés, qui vont pouvoir bénéficier de ce tirage au sort, alors que d'autres personnes qui vont être absolument pas privilégiées, ou très très peu, vont subir justement l'ascension de certaines personnes qui paraissent déjà extrêmement en haut de l'échelle. Donc ça voudrait dire que la solution pour arriver à une forme d'égalité, équité qui viendrait par le tirage au sort, il faudrait complètement éliminer cette domination.
En fait, le tirage au sort est une solution statistique, mais j'ai pas dit que c'était politiquement acceptable. Politiquement acceptable pour des gens qui ont été socialisés à l'égalité ou à un principe d'égalitaire ou à un principe d'équité plus exactement, d'où la domination. Mais en fait, techniquement, si vous voulez, si on prend le cas de la société américaine, mais on pourrait transférer ça en France très facilement, des minorités ethniques, hein, afro-américaines, hispaniques, qui sont très peu ou beaucoup moins représentées que d'autres races aux États-Unis ou dans les grandes universités américaines, ben, en fait, sont mieux représentées par ce cadre-là. Et là, on retombe dans des critiques de la discrimination positive, et tous les ans, d'ailleurs, vous avez des affaires qui remontent à la Cour suprême, souvent portées d'ailleurs par des lobbies anti-droit civique, donc contre le droit des minorités, qui disent bah, « en fait, c'est pas juste. Pourquoi ? Parce qu'il est né noir et moi, je suis née blanche. Il aurait plus le droit d'aller à Harvard ou à Stanford, etc. Que d'autres. » Il y a, encore une fois, une morale statistique, une solution statistique et une solution politique. Et la question que je vous pose, que je nous pose collectivement, c'est dans quelle mesure on a envie d'y adhérer. Et l'attention que ça, peut-être que ça porte chez vous quand je dis ça, c'est l'attention qui nous traverse tous, parce qu'on a envie de croire à la méritocratie, puisqu'on a tous été élevés ou socialisés par une institution qui est l'école, qui nous a donné envie d'y croire. Et qui fait aussi qu'on est militant contre toute forme de domination, de genre, de race, etc., j'ai perdu ma phrase, mais en tout cas, je pense que vous avez l'idée. Merci beaucoup pour la réponse, pour la question, et de m'avoir donné l'occasion d'y répondre.
Oui. Alors, juste pour revenir, pourquoi ça peut irriter les gens qu'on parle de chance. D'ailleurs, ça a été étudié. Ça veut dire que les personnes à qui on fait lire un texte sur la chance, après, ils ont beaucoup plus de compassion pour les autres. Si on leur fait lire un texte sur le mérite, après, ils ont moins de compassion. Il y a quelque chose, en fait, qui naît. Alors, en fait, admettons que la méritocratie n'est vraiment pas bonne pour notre psychologie et pour notre rapport à soi et aux autres. Mais c'est parce qu'en fait, ceux qui sont arrivés ont quand même travaillé. Ça veut dire que si je prends cette métaphore de la course au relais à laquelle en fait les gens qui ont des privilèges commencent un peu plus proche de l'arrivée. Imaginons par exemple vous êtes à 100 mètres et d'autres sont à 200 mètres de l'arrivée parce que ils ont moins de privilèges. Ok. Et ben en fait si la course commence, bah celui-là il a quand même couru 100 mètres. Voilà, il est arrivé, il va dire, c'est parce que j'ai couru les 100 mètres. Bah, l'autre, il l'a vu arriver, il a dit, laisse tomber. Souvent, c'est ça qui nous arrive. Il est arrivé, il a dit, je suis Anthony Bourbon, je représente, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais un entrepreneur qui a réussi et qui considère qu'il l'a fait parce qu'il a forcé le destin, c'est le titre de son ouvrage. Il représente un peu ce discours de la réussite de l'entrepreneur qui a été déjà présente dans les pères fondateurs des États-Unis. Ça veut dire qu'on s'enrichit parce qu'on a travaillé, parce qu'on s'est réveillé très tôt. Et en fait, il y a cette... Finalement, il y a quelque chose de vrai dans le fait que le travail nous mène quelque part. Si celui qui est à 100 mètres n'a pas bougé, ben c'est sûr qu'il ne va pas y arriver. Et donc, en fait, on construit notre récit par illusion biographique en disant... Moi, je peux dire ça aussi. Hein. Je peux dire je peux travailler, mais je peux dire aussi que j'ai été aidée. En fait, c'est en ça que c'est une fiction, c'est qu'on se la raconte comme on veut. Est-ce que j'ai pas écrit un doctorat ? Si, j'ai écrit un doctorat, mais j'ai pas été la plus méritante de tous ceux... C'est-à-dire, j'ai pas travaillé plus que tous ceux qui m'entouraient, d'ailleurs, moins. C'est juste le sujet est tombé, le sujet du master est tombé sur celui que j'ai le plus préparé, par chance. Hein, ben voilà. Et en fait, d'ailleurs, une fois qu'on est apaisé avec cette idée, c'est très libérateur, c'est très chouette comme idée. Mais je vais proposer une autre alternative à côté de l'idée de tirage au sort. C'est aussi de questionner pourquoi ce serait la seule façon d'y arriver dans la société. C'est-à-dire qu'il y a aussi la méritocratie à soi, une distinction, ce que Michael Sandel appelle l'hubris méritocratique, c'est-à-dire que, ben en fait, même ceux qui ont été tirés au sort, ils vont arriver à croire qu'ils ont gagné par leur propre travail, parce qu'on a rendu l'école, on a rendu la réussite scolaire et la richesse économique, on a en fait considéré que c'est la seule façon de réussir. Donc on, en fait... En créant un... Il y a une métaphore, je ne sais pas, vous avez peut-être tous vu cette image d'animaux, un poisson, un singe, tout ça, à qui on dit, voilà, l'examen, c'est la nage.
C'est pas, c'est, tout le monde trouve ça injuste parce que, bien sûr, le poisson va arriver. Disons que ça, le poisson, il a tous les capitaux. Mais en fait, le concours ne peut pas être juste quand il évalue une forme d'intelligence. Et ça, en tant que neuroscientifique, ben on sait que ça, c'est une forme d'intelligence qui a été sélectionnée pour être évaluée à l'école parce que ça correspondait aux besoins de la société de l'époque. C'est-à-dire, aujourd'hui, à quoi ça sert, par exemple, d'avoir des compétences logico-mathématiques comparées, ce que je disais avant d'arriver, j'étais avec une maman et on disait que nos enfants ne savent pas gérer les conflits. Ben, l'école n'apprend pas ça, en fait, parce qu'on n'a pas valorisé ce genre de compétences. Et donc, en fait, on est en train de créer une compétition sociale qui est concentrée sur l'évaluation de la nage. C'est sûr que les poissons vont y arriver. Et rajouter à cela, qui évalue des poissons ? C'est ça aussi, j'ajouterai à cette métaphore, c'est que ceux qui évaluent ce concours, c'est ceux qui ont réussi ce concours-là. Ça veut dire que, il y a, c'est aussi dans un autre chapitre que vous avez arpenté hier, c'est qui décide qui fait partie de l'histoire de l'art ? C'est ceux qui l'ont réussi. Il y a plein de sociologues aussi qui ont travaillé sur la sélection. Alors, je pense que la sélection qui se fait, par exemple, aux Beaux-Arts, c'est un tirage au sort qui dépend de l'humeur. C'est un peu ça aussi, hein, de l'humeur et des biais. C'est aussi une forme de tirage au sort. Hein. Sur qui tu tombes, c'est pas de la chance. Et en fait, c'est tellement subjectif que ça, c'est pas très loin de la chance. C'est vraiment ça. Si vous avez une gastro la veille, vous allez échouer parce que vous n'êtes pas en forme. Si vous avez un accent qui attendrit le jury parce que c'est l'accent de son ex, je ne sais pas, ça va bien se passer pour vous. C'est de la chance parce que ce sont des critères qui sont tellement subjectifs qu'on a à quoi on a donné un costume objectif. Mais finalement, les sélections telles qu'elles se font aujourd'hui, c'est, je ne vais pas dire les dominants, mais ceux qui occupent les postes de pouvoir, qui se reproduisent en sélectionnant les traits d'évaluation qui les évaluent. C'est-à-dire, c'est comme si moi je dis, ah, c'est un concours de filles qui ont des franges. Je veux dire que ça, voilà, c'est ça le concours, il faut gagner à ce concours. Ah, bien sûr que tu ne vas pas passer. Et en fait, c'est ça, si... si je revenir à la sociologie spontanée, si j'analyse mon parcours, je vais retrouver dedans comment j'ai singé les caractéristiques des dominants. Je les ai singés, moi je considère avec conscience, mais quand même, je voulais bien appartenir, je voulais bien y arriver, mais je suis pas celle qui était il y a 20 ans, qui n'aurait pas été quelqu'un qui pourrait vous parler. Parce que je devais... La dernière singerie, je dirais, c'est la perte de mon accent. Marrant, hein, c'est quand je me dis qu'est-ce qui se passe. Mais c'est tout ça, c'est parce que on veut s'identifier aux caractéristiques que les dominants portent. Et ça, c'est, je pense que Bourdieu le fait mieux que moi. Mais c'est pour encore une fois revenir à l'idée que nos cerveaux, ça c'est voilà, c'est parole de biologiste, que nos cerveaux sont, l'intelligence n'est pas un trait monolithique. La créativité n'est pas un trait, déjà. C'est pas je suis créative ou pas, je suis intelligent ou pas. Ce sont des noms que nous donnons à des performances visibles. Et donc, en fait, le cerveau qui crée, c'est le même qui fait des maths. Exactement. C'est les mêmes processus mentaux qui se produisent. Les processus mentaux que les artisans utilisent, c'est exactement les mêmes processus mentaux qui sont utilisés par les scientifiques et les innovateurs et les artistes. C'est à l'arrivée qui juge, qui évalue, et encore une fois ce texte seul que j'ai eu le temps de lire dans le train, qui dit que c'est de l'art ou c'est de l'artisanat. Voilà, ça la question. Qui dit que ça c'est de l'excellence et ça c'est de la médiocrité ? Qui dit que ça c'est un esprit scientifique et ça c'est un esprit spirituel ? Enfin, voilà, ça c'est le genre de questions qu'on peut aussi rajouter. C'est-à-dire, dans la critique de la méritocratie, c'est comment elle a décidé de ce que c'est la réussite. Et donc on est tous en train de mener une compétition n'ayant pas les mêmes armes et n'ayant pas les mêmes aspirations non plus.
Pour rebondir sur deux questions que tu as soulevées, et qui répondent aussi à tes questions à venir, Manon. Alors déjà, sur la question de l'école sur les beaux-arts. Il y a un documentaire, si vous ne l'avez pas, sur la question en fait, qui est passionnant, qui s'appelle Le concours d'une documentariste, qui s'appelle Claire Simon, et qui porte justement sur l'entrée de le concours, l'organisation du concours d'une école de cinéma très prestigieuse, qui s'appelle la FEMIS, qui se situe à Paris. Et l'obsession, alors ce qui est très intéressant dans ce documentaire, c'est que certes, elle s'intéresse aux candidats, mais elle s'intéresse surtout aux membres du jury et la manière dont ils travaillent. Et ce qu'elle souligne, enfin, parmi toutes les choses qu'elle souligne, c'est que tous ces membres du jury qui sélectionnent des futurs candidats aux professions du cinéma, hein, réalisateurs, décorateurs, ils sont tous obsédés par une chose qui est en fait un pur produit de la construction du métier, c'est le génie. Ce qu'ils veulent, c'est recruter le futur Wim Wenders ou le futur Truffaut et l'identifier et se donner la chance d'identifier le futur Wim Wenders, c'est de pouvoir dire plus tard, ben moi j'ai vu cet étudiant-là et puis il est devenu ce qu'il est devenu, mais déjà, dès le concours, on avait vu qu'il avait quelque chose. Effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement naturalisant, comme si un génie existait. Et c'est aussi, dans toutes les disciplines liées à l'art, tu parlais de l'histoire de l'art, les arts plastiques, le cinéma, etc., il y a toujours ce culte du génie, du talent, et ça, évidemment, ça, on revient peut-être à la naissance ou aux origines de ce festival et au regard du festival d'Angoulême, sur la croyance qu'il y aurait un génie ou un talent qui serait capable de subsumer ou de sublimer toutes les différences. Donc on n'a pas besoin de s'intéresser aux différences, aux rapports de domination, puisque ce qui compte, c'est une sorte d'universalisme sublimant ou sublimatoire qui serait le talent ou le génie. Ça, c'est vraiment propre à la sociologie des professions artistiques, je pense. Pas que, mais c'est très fort. C'est très fort chez eux, je suis d'accord sur scientifique. La deuxième chose, c'est la question de la subjectivité. Pour Bourdieu, mais ça a été confirmé par toute une querelle d'enquêtes en sociologie, c'est que la base des concours et de l'évaluation, quelle qu'elle soit, que ce soit le baccalauréat, le brevet des collèges, le concours de sciences pour rentrer en médecine, c'est la subjectivité. La subjectivité, c'est le propre de la sélection. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas des machines. Je suis prof, hein. Je note mes élèves, j'évalue parfois mes collègues qui m'évaluent en retour. Je suis un humain. Et ce qui détermine cette subjectivité, c'est sa propre trajectoire sociale et sa propre trajectoire scolaire. On aura tendance à croire à l'objectivité du concours, d'autant plus qu'effectivement, on aura réussi beaucoup de concours. Normal sup, l'agrégation et le concours de maître de conf et de professeur des universités à la suite, ou CNRS. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier quand on entend tous les discours sur l'école. Ce qui caractérise les discours sur l'école, donc en vrai, c'est la subjectivité, mais c'est aussi la capacité de l'institution à produire des discours sur elle-même et à produire des discours objectivants ou des ces situations qui nous donnent l'impression qu'on est parfaitement traité en égo. L'exemple que j'adore et sur lequel je travaille en ce moment, c'est les salles de concours ou les salles d'examen. Avez-vous déjà été dans une salle d'examen ? Vous avez peut-être été dans ces grands halls, hein, souvent c'est des halls qui servent à plein de choses, et vous étiez sur une table, en général d'un mètre sur un mètre, à équidistance de votre voisin ou voisine de gauche et de droite, avant et après. Vous avez été appelé par un surveillant ou surveillante qui vous a distribué une copie dans exactement les mêmes conditions, du moins le croyez-vous, que vos voisins ou vos voisines. Mais évidemment, c'est une fiction. Tout est fait pour vous faire croire que vous êtes traité par l'État ou par les écoles, par les institutions, de la même façon qu'autrui. Sauf qu'on ne prend pas en compte le fait que vous ne venez évidemment pas du même lieu et en sortant de la salle, vous ne vous rendez jamais dans le même lieu. Et que finalement, c'est ça qui compte. Donc ce qui est intéressant dans l'école et le concours, c'est non seulement la subjectivité des membres du jury, mais leur capacité à produire, et le mérite, et les discours méritocratiques en font partie, des discours qui vous font croire que c'est objectif. Voilà.
Mais finalement, peut-être, j'essaye de penser à ce que vous êtes en train de penser, et vous dites, mais quand même, à l'arrivée, les gens n'ont pas la même performance, n'est-ce pas ? Ça veut dire que ces concours servent à quelque chose, parce qu'au final, Un cinéaste ou une cinéaste qui est reconnue, bah bien sûr qu'elle a plus de... objectivement, qu'elle a plus de connaissances, d'expertise, de techniques que quelqu'un qui n'a pas été retenu. Mais en fait, c'est cette causalité qu'il faut questionner. C'est-à-dire, une fois que l'école, que le concours sélectionne, c'est là que la personne va être face à des opportunités de faire travailler ses compétences. Ce que Pareto donc en fait dit que l'attention va être réservée à 20% des 100% de personnes qui font partie d'un domaine. Je pense que c'est moins que ça. C'est-à-dire que, par exemple, si Bernard Lahir, un sociologue, il a commencé même par parler de ça à 5-6 ans, les enfants vont être regardés par leurs instituteurs et institutrices comme étant plus capables. Et en fait, cette prophétie se réalise. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est pas lui, mais il y a d'autres qui ont travaillé sur ça, dont des chercheurs en éducation. C'est le nombre de fois où le prof ou la prof croise le regard de l'élève. Et en fait, si on leur fait croire que cet élève, il est brillant ou brillante, il va le regarder et la regarder plus. Il va s'assurer que c'est bon, ce point, il est compris, passer à autre chose si cet élève a compris. Et donc, en fait, il se passe quelque chose qui valide finalement cette illusion d'objectivité et qui la rend objective. C'est-à-dire, ça commence par quelque chose qui est complètement subjectif et biaisé. Ça ne veut pas dire subjectif, parce que subjectif, on a l'impression que ça vient nulle part, comme ça, de mon humeur du jour. Non, ça vient aussi parce que c'est biaisé, ça porte en lui les discriminations et l'attente de ce à quoi doit ressembler quelqu'un qui est un génie. Et je dis un, pas par hasard aussi, parce que historiquement, c'était les hommes qui possèdent ce titre. Et que finalement, ça se valide, parce que finalement, les personnes reconnues comme étant des personnes talentueuses vont récupérer l'attention, vont récupérer la place, les ressources qui sont de nature limitée. Et donc, finalement, ils vont finir par avoir la performance à l'arrivée qui est supérieure. Mais ce n'est pas parce qu'ils avaient du talent, ce n'est pas parce qu'ils avaient le génie en eux et en elles, mais c'est parce que c'est au départ, et on peut revenir très 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 tôt, et si on veut s'enfoncer dans la biologie, on peut revenir même au vécu intra-utérin, là commence déjà ce qu'on porte, on donne au corps comme possibilité ou manque de possibilité de faire actualiser ce que nous avons comme compétence.
Alors, il ne nous reste plus que 5 minutes pour le temps de la rencontre. Est-ce que quelqu'un aurait une question avant ma question de conclusion ? Juste. Pas de questions. Si. Ah, voilà.
Alors, je vais essayer de formuler le plus clairement possible. Je me demandais si le fait que la méritocratie, on s'y attache fortement en tant que société, c'est pas lié au fait que psychologiquement, ou je ne sais pas quel autre terme on pourrait mettre, c'est que l'humain, il a besoin de sentir qu'il a un contrôle sur sa vie. Et que si on passe par la chance, mais qu'on pourrait dire aussi le hasard, parce que la chance est plutôt positive, mais pour d'autres, ça pourrait être un hasard négatif, ça pourrait être interprété comme finalement, on est dans une république française, ça a l'air d'être mieux que dans des pays où il y a des castes, par exemple, en Inde, des choses comme ça. Et on se dit, mais en fait, tout est déterminé, je n'ai aucun contrôle sur ma vie. Alors, je sais bien que, sans doute, on a un contrôle très limité, mais de nous maintenir dans l'illusion que l'on puisse, par nos efforts, nos talents, notre persistance à je ne sais pas, ça fait que ça rend la vie moins vaine et ça nous donne un certain sens.
Vous avez tout à fait raison et là je cite dans mon livre un sociologue qui s'appelle François Dubé, qui est à Bordeaux, pas très loin d'ici, qui parle lui de fiction nécessaire. Pour lui, le mérite, pourquoi on y croit malgré tout ? On sait que ça produit des inégalités, on sait que l'institution scolaire est éminemment inégalitaire, mais on y croit quand même. Pourquoi ? Parce que c'est une fiction nécessaire. Guerre en Ukraine, Covid, on a l'impression de ne pas contrôler notre environnement, et croire que notre mérite ou que notre effort pourrait être rétribué et reconnu en termes de dignité sociale, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. Tout simplement. Et effectivement, pour lui, et lui il se situe aussi dans une veine de psychologie sociale assez bien connue, c'est pourquoi on y croit quand même ? Parce que c'est une fiction qui dit nécessaire. C'est une fiction, on le sait, on apprend à le déconstruire, mais ça reste pour lui nécessaire et d'autant plus difficile de s'en départir. C'est aussi pour ça que le discours sur la chance ou le hasard, je suis tout à fait d'accord, on peut utiliser les deux termes, est aussi difficile à entendre parce que du coup, la chance, ça dépend plus de nous. Sauf qu'on est dans des sociétés historiquement qui sont individuées, où le cœur de la société, c'est l'individu. C'est pas la famille, c'est pas la caste, c'est pas le clan. C'est l'individu reconnu dans sa capacité à potentiellement produire des efforts. Comme si, avec la fiction, un autre sociologue allemand qui s'appelle Norbert Elias appelle ça l'homo clausus, c'est-à-dire l'homme fermé en lui-même, comme si l'homme ou la femme était capable de fournir des efforts seulement par lui-même, en lui-même, et d'être reconnu en lui-même et pour lui-même, en fait. Et ça, c'est une fiction qui est forte et qui structure un certain nombre de sociétés, certes occidentales, mais aussi potentiellement au-delà, avec le capitalisme. Et là, je ne vais pas vous faire une histoire du capitalisme, mais il y a quelque chose d'extrêmement fort d'articulation entre capitalisme, maintenant néolibéralisme, et mérite, méritocratie, adhésion au mérite. Voilà.
Moi, je vais dire qu'elle est nécessaire pour ceux qui en profitent, mais elle n'est pas vraiment nécessaire pour nous, les individus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de contrôle sur nous-mêmes, même si en neurosciences, on n'en a pas. C'est-à-dire que le libre arbitre, quand on l'étudie dans le laboratoire, c'est une illusion. On ne parle pas de free will, mais on parle de free want. Ça veut dire que c'est cette mince marge de manœuvre que nous avons sur nos décisions, mais qui sont... Alors en fait, quand je dis qu'on est déterminé en neurosciences, ou déterminé par quoi ? On est déterminé par notre vécu, hein, c'est pas si loin. Mais il y a quelque chose d'intéressant, et ça c'est plus Chantal Jacquet qui travaille sur la philosophie de Spinoza, et qui dit que cette liberté... elle peut avoir lieu une fois qu'on a pris conscience. C'est beaucoup plus intéressant, en fait. C'est-à-dire que cette fiction, une fiction nécessaire, je ne sais pas si elle est vraiment libératrice. C'est-à-dire que, si, par exemple, un Nepo Baby, je ne sais pas si vous savez un Nepo Baby, genre, je ne sais pas, Marion Cotillard ou Lily Depp-Rose, voilà, qui prend conscience de ses privilèges et qui les admet, bah, elle serait moins naïve que de dire « j'ai réussi par mon talent ». Dire « non, j'ai ces privilèges, j'ai baigné dans ce milieu et j'en ai fait ça ». En quoi ça, c'est moins joyeux, c'est moins... C'est joli aussi, pour citer un philosophe arabe, parce qu'on ne peut pas sortir d'une vision eurocentrée, il s'appelle Razali, c'est beaucoup plus loin d'ailleurs que Spinoza, mais il avait dit que la seule façon qu'on se sente libre, c'est quand on a pris conscience de ce déterminisme. Et qu'un transclasse ou un transfuge de classe qui admet qu'il a été aidé, qu'il a admis la part de la chance, et qui dit quand même, j'en ai fait ça, j'ai fait ça de ce passage. En quoi cela enlèverait, ça enlèverait la vanité de croire qu'on s'est fait de nous-mêmes, mais ce n'est pas moins nécessaire. C'est-à-dire, en fait, de revenir à ce... Déjà, je vous remercie pour cette dernière question, parce que ça enlève le troisième ombre de paille très courant, c'est que, mais là, c'est le fatalisme... Non, au contraire, c'est une fois qu'on a pris conscience des inégalités, une fois qu'on a questionné la distinction, la hiérarchie des réussites, la hiérarchie de ce que c'est d'être élite ou pas, qu'on commence le travail. Tant qu'on est dans la fiction, c'est le fatalisme, parce qu'on avance... comme des êtres illusionnés, mais on avance nulle part. Donc, au contraire, c'est une fiction nécessaire, mais ça va, hein, on va s'en sortir quand même, sans cette croyance de libre arbitre dans lequel je me suis fait de moi-même. J'ai l'impression que ça ne serve personne, et que ça fait que créer du dénigrement, de la vanité, et qu'on peut passer à d'autres incarnations.
Juste un mot sur le nécessaire. Quand il dit nécessaire, c'est qu'il prend le discours des acteurs. Il y met pas un moral lui-même. Pour lui, c'est pas nécessaire ou pas nécessaire ou pas. C'est il reprend et se met à la place des acteurs avec lesquels il travaille, en disant ben pour eux c'est nécessaire finalement. Je voulais juste finir peut-être par dire à quel point réinvestir ce collectif derrière les réussites ou les parcours, tout simplement, sociaux, scolaires, etc., c'est aussi repolitiser et réinventer ce que vous êtes en train de faire, le politique, le fait d'être ensemble et de réfléchir à notre avenir ensemble. Et ça me paraît absolument nécessaire. Il y a dans la réflexion sur le mérite, sur la méritocratie, quelque chose d'éminemment politique et qui, à mon avis, doit largement dépassé les cercles scientifiques ou universitaires pour être prise en charge par un festival comme le vôtre. Voilà, merci beaucoup.
Pour quand même conclure, quel est du coup, selon vous, l'enjeu sur ces sujets pour les luttes féministes aujourd'hui ?
La lutte féministe, c'est une lutte qui questionne les inégalités, déjà. Donc si elle ne le fait pas, ce serait encore une fois de développement personnel, comme ça l'est d'ailleurs aussi les discours de transfuges de classe qui le font pour raconter comment ils ont échappé aux barrières sans faire cette sortir de soi et regarder ça sociologiquement. Donc en fait, le travail contre la méritocratie a beaucoup à apprendre de ce qui a déjà été fait par les travaux de genre et d'ailleurs tout aussi dans les luttes afro-américaines. Il y a déjà une prise de conscience des barrières, des inégalités sociales. Donc déjà, ça nous amène ce qui a... comme c'est un travail collectif, ce qui a été fait ne doit pas être fermé comme ça l'est déjà dans les disciplines. Ça veut dire qu'il y a une ouverture sur ces questions. La femme a beaucoup payé le prix de la croyance en le talent, historiquement. Ça veut dire que les biologistes ont participé à dire qu'elle a une circonférence de crâne qui est inférieure à celui de l'homme, donc elle ne peut pas réfléchir aussi bien, qu'elle a des hormones et qui la rendent hystérique à un certain moment du mois. Tout cela, en fait, renvoie à la biologie, ce qui justifie le non-accès, la non-légitimité dans certains milieux. Donc quand on réfléchit la question féministe, quand on réfléchit la question raciale, quand on réfléchit la question de classe, on est en train de regarder les choses en face, en fait, c'est-à-dire que plutôt que de se dire que et aussi réfléchir l'aspect collectif du travail derrière, il n'y a pas une femme, et ça c'est François Dubé qui l'a dit dans un entretien qu'on partageait, il n'y a pas une femme comme ça qui s'est levée et qui a changé le cours des choses, ça a toujours été un travail collectif. Et la méritocratie fragmente le collectif en renvoyant à certains individus les innovations, le génie, la transformation de la société, en les envoyant surtout à des hommes. Mais en fait, cette fragmentation du collectif touche toute lutte vers une justice sociale. Donc en fait, voilà, toute réflexion féministe nourrit la réflexion antiméritocratique et la méritocratie aide, enfin, combattre la méritocratie va aussi permettre à ce qu'on arrête de biologiser la femme, la renvoyer à son instinct maternel, la renvoyer à ces hormones, qui sont d'ailleurs des considérations biologiques fausses.
Pour répondre à la question, je pense qu'effectivement, le mérite est un universalisme, c'est-à-dire que c'est une idéologie qui fait croire qu'on est tous égaux devant la capacité à réussir ou pas, et qui écrase justement et qui invisibilise tous les rapports de domination, toutes les relations de pouvoir, quelles qu'elles soient, et évidemment, éminemment sur la question du genre. Et ce qui explique aussi le maintien des inégalités, par exemple dans les concours des grandes écoles, qui valorisent des critères dits méritocratiques ou qui valorisent des discours fictionnels de type le talent, qui sont en fait des discours qui sont pleinement genrés au masculin et socialement situés de manière élitaire. Voilà, tout simplement.
Merci beaucoup. Si vous voulez poursuivre les échanges de manière plus individuelle, je vous invite à participer à la séance de signature et à la suite, le concert de Vitiful juste sur cette place. Demain, on se retrouve pour un podcast club consacré aux drôlesses musiciennes, donc l'étude menée par la NEF sur les parcours de professionnalisation des musiciennes en Charente.